Bonsoir, bienvenue à Pop en Stock. Ce soir, c'est l'épisode 78 et c'est un spécial retour des fêtes. On a reçu nos comptes de Visa, de carte de crédit. On retourne au travail, on se rend compte qu'on a pris du poids et Lemmy et David Bowie sont morts durant le temps des fêtes. Donc, c'est le spécial Juron, le spécial sacre. Hostie, peux-tu le dire? Donc, je me présente, je m'appelle Hélène Lorrain, et ce soir, autour de la table, il y a Samuel Archibald, un des cofondateurs de Pop en Stock. C'était vraiment un honneur de te recevoir, Samuel.
Bonsoir, c'est un honneur partagé, chers amis.
Et Rachel Hippolyte, qui est une enseignante à la Commission scolaire de Montréal.
Effectivement, c'est mon job dans vie.
Une personne qui entend sacré énormément.
Oui, quand même! Tant mes collègues que certains élèves, parce que...
Et c'est peut-être la direction aussi avec ce qui se passe.
N'est-ce pas?
Oui. Donc, en fait, je vais faire un premier tour de table. Rachel, c'est quoi ton sac préféré?
Mon sac préféré?
En toutes les langues.
en créole, ma mère a l'habitude de dire « tonnerre ». Puis moi, je trouve que ça sonne, tonnerre.
Oui, oui.
Ça sonne pas mal, tu sais. Sinon, je dis « calice », mais... C'est ça. Donc, en québécois, ce serait quand Alice, puis dans le top, ça serait tonnerre, je trouve ça.
C'est intéressant, ça.
Ouais.
Moi, dans les sacres canoniques, c'est tabarnak, qui est, à mon avis, le plus important. De toute façon, peut-être avec le T, avec les B, ça sonne justement comme tonnerre.
Ouais.
Dans les plus exotiques de par chez nous, j'aime beaucoup crucifié, parce que juste le monde de Jonquière qui dit ça, ou à peu près, il est très jonquierois, crucifié comme sac, puis il sort du fin fond de mon passé, souvent quand je suis vraiment très fâché, et ça fait beaucoup rire mon épouse. Que d'entendre ça dans la maison.
Moi, mon sac préféré, c'est un peu un mélange entre deux, c'est Chris. Donc, on peut vraiment mordre dedans le R, puis le fait que c'est monosyllabique.
Tu peux laisser siffler les S aussi longtemps que tu veux. Tu peux
puis
mettre
le rouler le
S,
R aussi.
Ouais, on peut vraiment bien mordre dedans. Et aussi, j'ai une confession à faire, parce que je sais que ma mère m'écoute et ma grand-mère m'écoute. Donc, oui, maman, je sac. Ok, voilà, c'est dit. Mais jamais devant toi. Toujours en cachette.
Dans ton coin.
Donc, Rachel, tu veux nous parler de l'aspect sociolinguistique des jurons.
Oui, oui, effectivement. Donc, en fait, la question de l'utilisation des jurons selon différentes couches sociales et selon différents groupes sociaux, puis... communauté m'a intéressée pour plusieurs raisons. La première, elle s'entend pas là à la radio, mais ça donne que je suis ce qu'on appelle improprement une immigrante de deuxième génération, c'est-à-dire que si moi je suis née ici, mes parents sont arrivés d'Haïti il y a presque 40 ans maintenant.
Mm-hmm.
40 ans, presque 40 dans le cas de ma mère. Mon père, s'il était encore de ce monde, un peu moins. Et chez moi, ça sacrait pas tant, à part, ça sacrait pas québécois. Il y avait le tonnerre, qu'on vient de dire. Mais c'est ça. Quand ça sortait, ça me faisait beaucoup plus rire qu'autre chose, parce que à cause de l'accent. Mes parents ont gardé un accent haïtien assez fort, même s'ils ont un français parfait. Et le sac préféré de mon père, c'était Caline de Bine. Il disait vraiment... Caline de Bine. Et ça vous donne une idée du fait que pourquoi je trouvais ça drôle. La deuxième est liée à mon emploi actuel. Donc, comme ça a été dit plus tôt par Hélène, je suis prof de francisation, donc en accueil avec des enfants immigrants. Et j'ai aussi enseigné à des ados depuis 2008, donc depuis 8 ans maintenant. Et entre collègues, j'ai souvent entendu le « Ah ben, il est bien intégré quand on entend un élève ou un étudiant immigrant sacré. »
C'est intéressant ça.
Oui, tout à fait. C'est comme si le fait de sacré était un signe de « Mon Dieu, il est officiellement québécois. »
D'un nouveau niveau. Là.
Exactement, tu sais.
Mais es-tu dans l'examen d'accueil?
Non!
Il n'est pas fait au Québec, l'examen d'accueil.
Bon, oui, c'est ça. Et voilà! Mais c'est ça. Puis dans le cas des enfants, on est quand même obligé de leur dire « Hey, sac pas, là. » Parce que, bon, c'est mal et que ce sont des mauvais mots. Mais on a toujours le sourire en coin pareil, parce que, lorsque les enfants en question ne sont pas des deux souches, ils sacrent quand même.
Est-ce que je peux y aller d'une anecdote pendant que tu reprends ton souffle, parce que ça me fait rire, ça me fait penser justement au niveau d'intégration. Il y a un moment où, à notre deuxième enfant, quand ma femme est retournée travailler, fallait qu'elle retourne travailler assez vite, et la petite pour nous était trop petite pour aller à la garderie. C'est vrai qu'on a eu pendant 2 ans une nanny qui était marocaine, et qui venait d'arriver, qui était là depuis 4 ou 5 ans, et c'était très très drôle, parce qu'il y a eu toute une négociation autour de ça, c'est-à-dire, par la force des choses, la nanny s'occupait des enfants, s'occupait du langage qu'elles étaient en train d'acquérir. La plus vieille avait quand même 4-5 ans. Mm-hmm. Et là, il y avait toute une affaire autour des sacs, justement, qu'on disait, ben là, faut pas qu'ils sacrent. Mais là, il y avait tout le côté. Les sacs, à un moment donné, j'étais arrivé, puis Fatih avait mis Sophie en punition. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit tabarouette. Puis là, j'étais comme obligé de dire, ben là, Fatih, malheureusement, tabarouette, elle a le droit. Puis là, j'étais presque obligé de faire des charts. C'est pour dire, qu'est-ce qui est un vrai, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est pas grave. Parce que c'est très compliqué comme charte culturelle, finalement.
Mais ça, je pense qu'on va en parler, des différentes manières de contourner les sacs pour en créer des softs, là.
Ouais. Exactement. Oui. Parce qu'il y a toute une structure, en fait, derrière ça, que j'ai découvert en faisant mes recherches. Donc, voilà. Alors, pour explorer la question de l'immigrant et les sacres, j'ai fait un appel à tous sur un réseau social bien connu avec un F bleu pour recueillir des témoignages. Puis, j'ai eu à peu près 5-6 amis qui m'ont répondu, qui ont tous des parcours très différents. D'ailleurs, je tiens à les remercier publiquement, parce que cette chronique-là tiendrait sur une demi-page si c'était pas de vous. Alors, les amis en question sont soit des gens exactement du même profil que moi, c'est-à-dire nés ici, mais de parents immigrants, arrivés au Québec très jeunes. Donc, une de mes amies du secondaire est arrivée ici à l'âge de 5 ans de France, ou arrivée au Québec à l'âge adulte. Je leur ai posé à chacun 5 questions. Te rappelles-tu du moment où tu as entendu sacré pour la première fois et le décrire? Pour toi, le sac est-il un élément important de la culture québécoise et pourquoi? Faut-il comprendre le sacre pour comprendre la culture québécoise? le quatrième, et là, le moment confession arrive, sacres-tu? Et dans quelles circonstances? Et sinon, pourquoi tu le fais pas? Et la cinquième et dernière question, quelle est ta perception face aux gens qui sacrent, et est-ce qu'elle a changé depuis ton arrivée?
Moi, j'aimerais ça reposer la question avec le mot poutine à la place.
C'est vrai. Rappelles-tu du moment où tu as mangé de la poutine? Ouais. Je me rappelle.
Il y a des gens qui ont le questionnaire de Proust. Nous autres, on va avoir le questionnaire de Rachel.
Le questionnaire que lui. Donc, voilà. Alors, la première, qui était le moment où on a entendu sacré pour la première fois. En général, évidemment, plus on a été mis en contact jeune, moins on se souvient du moment zéro du sac dans notre vie. Personnellement, je ne me rappelle pas du moment où est-ce que j'ai entendu sacré, mais ça devait probablement être dans mon entourage. J'ai grandi dans un quartier quand même très francophone de Montréal, qui est Pointe-aux-Trembles, et donc, par conséquent, tous mes voisins étaient des dessous chez sacré allègrement. Donc, ceux qui s'en souviennent, c'est à peu près le même genre de profil que moi, soit du voisinage de leur quartier. Une de mes amies, qui, elle, est arrivée ici il y a 2 ans, de France, elle aussi, elle se baladait en auto avec une amie québécoise, et une auto l'a coupée, et l'amie en question a dit « C'est de tabarnak! » Et ça l'a libérée de cette grande frustration qui souvent est sur la route.
Oui, ça arrive souvent, en effet.
N'est-ce pas? Une autre, ça a été sur une piste cyclable. Elle a fait une mauvaise manœuvre et quelqu'un a dit tabarnak. Un de mes amis, lui, dans ce cas-là, c'est intéressant, il s'est trouvé confronté à entendre un sacre pour la première fois aux alentours du référendum de 95. Il avait 9-10 ans. Puis sa famille... égyptienne, il y a des Marocains aussi là-dedans, et des Italiens qui étaient tous pour le non, et se moquaient allègrement des Québécois en sacrant, puis en les imitant, puis lui se demandait si tous les Québécois parlaient comme ça. Donc, et ça le rendait vraiment mal à l'aise. C'est un élément d'ailleurs qui revient souvent, le fait de prendre le sacre comme seul élément distinct. Je vais y revenir lors de la troisième question, qui est faut-il comprendre le sacre pour comprendre le français québécois? Le malaise ou l'incompréhension revenait aussi chez certains. Donc, dans le cas de mon ami québéco-égyptien dont je parlais tout à l'heure, ça a été le cas. Un aussi, lui qui est mexicain d'origine, a essayé de traduire tabarnak en espagnol. Oui. Et comme il en était incapable, il en était plus confus que jamais. lui, il comprenait pas. Là, il était, ben, je sais pas c'est quoi!
On parlait de la question de la traduction avec Samuel tout à l'heure, justement.
Ça tombe bien. Je sais pas, dans ton cas, ça a été traduit en anglais, ton livre.
Oui, mais on en reparlera. Mais ça a été une grosse négociation. Je pense, mais est très particulière.
Oui, donc voilà, la traduction est un problème lorsque tu essaies de partir de ta langue maternelle. La deuxième question qui était l'importance du sacre. Donc, est-ce que tu considères que le sacre est important dans le français québécois et pourquoi? Tous soulignent l'importance du sacre dans la langue québécoise. Certains font remarquer que le juron est quand même une des premières choses qu'on apprend dans une langue étrangère, en général, et que ça fait pas exception ici. Comme le disait une de mes amies, on a tous besoin de dire quelque chose quand on se cogne l'orteil sur un meuble.
Il y a certaines théories linguistiques qui veulent que parmi les premiers mots formés, c'était des jurons.
Oui. Mm-hmm. Oui, effectivement.
Ben, c'est la qualité interjective de du mot comme tel, c'est-à-dire ce qui te sort de la
c'est
bouche quand
c'est
tu blesses pour exprimer la colère, donc des émotions qui sont en elles-mêmes assez primaires. Oui, c'est ça.
C'est ça. C'est parce que c'est d'autant plus fort que c'est aussi significatif dans les langues de chacun et donc que ça prend une importance. Et c'est ce qui a été souligné aussi par plusieurs. Donc, c'est ça. Donc, mon ami, donc, métissé, donc, son père est égyptien, sa mère est une de souche, et il soulignait l'importance du sacre parce que lui, il trouvait ça révélateur de notre psyché collective. En disant qu'en arabe, les jurons tournent beaucoup autour de nique ta mère, nique ta soeur, qui sont des insultes tournées beaucoup vers l'autre, cet autre étant souvent familial. En anglais et en français de France, c'est souvent autour du sexe ou c'est scatologique. Puis ici, les sacres, pour lui, en tout cas, les sacres sont une façon de dire quelque chose qui sonne, mais c'est pas nécessairement dirigé envers quelque chose ou quelqu'un. Je veux dire, Chris ou Ciboire, c'est désincarné. Pour lui, c'est comme si c'était « je veux japper, mais pas vraiment attaquer ».
OK, intéressant.
C'est une très belle façon de le dire, je trouve. Puis je pense que c'est un peu un stade, j'y reviendrai sans doute, mais je pense que c'est un peu un stade, en plus, sociétal, parce que c'est sûr qu'au départ, s'il y avait un tabou qui est en train de se défaire un peu sur les sacs, bon, tu parlais de ta mère, moi, mes grands-pères, par exemple, ne sacraient pas ni un ni l'autre, parce que c'était des hommes très religieux, ça fait qu'il y avait toute une espèce de vocabulaire, tu l'évoquais aussi, d'évitement et de tabarouette et de tableau noir et citron, mais ça prend toute une domestication de l'être pour être capable de dire citron au lieu de calice quand tu te casses le gros orteil, le petit orteil sur le même, mais il y avait toute cette qualité-là, et bien sûr, plus on s'éloigne d'un moment, bon, j'en parlerai, d'un moment où on connaît le vocabulaire de la communion, principalement, donc où on a un référent pour ces mots-là, ben plus ces mots-là deviennent purement presque poétiques, prosodiques, agressifs, mais c'est des sons, c'est pas des images que tu dis nique ta mère, ça vient avec une image. Tu dis de quelqu'un que c'est un cocksucking motherfucker, ça vient avec une image contradictoire, mais insultée, ben, et dure à se figurer, mais quand même une image, quand même. Alors que tu dis tabarnak de Chris.
Il n'y a pas l'image qui va
avec ça. Il n'y a pas d'image, mais il y a des syllabes qui explosent, justement.
Absolument. Puis le côté poétique, d'ailleurs, j'y reviens, ça a été quelque chose qui a été dit, justement. Dans les propos. Donc voilà, ça rejoint beaucoup le fait que ce soit pas dirigé envers quelque chose ou quelqu'un, le fait que ce soit désincarné, c'est revenu dans le propos d'Artyom Koulakov, qui est un chercheur à l'université de Saratov en Russie et qui se spécialise dans la présence du sacre québécois en littérature et de sa déclinaison dans divers types de mots. C'est un gars qui a quelque chose comme 30 ans puis qui est spécialisé là-dedans, qui s'est mis à s'y intéresser. Vraiment en découvrant la littérature québécoise et qui s'est plongé là-dedans. C'est fascinant. Et il disait lors d'une entrevue qu'il avait accordée au Voir en 2010, lors de la sortie de Sauce Brune, que les mentalités et les injures et les jurons déterminent la mentalité d'un peuple. Ils distinguent des autres peuples parlant la même langue. De la même façon qu'en France et ici, ou en Haïti, malgré le fait qu'on partage tous le français, ben, c'est pas les mêmes choses qu'ils vont se dire.
Et qu'on trouve ça très, très drôle. En tout cas, les Français trouvent ça très, très drôle. Ah oui, Chris.
Exactement. Exactement. Voilà. C'est ça. Donc, une de mes amies soulignait, française, arrivée depuis ici, depuis 2014, disait que c'était la langue populaire et d'où le fait que c'était important de le savoir parce que, ben, ça fait partie vraiment des racines importantes. L'ami mexicain me disait, je fais parallélisme avec la culture mexicaine où le sacre est utilisé souvent. C'est pas un élément essentiel, mais on peut reconnaître d'où tu viens selon où tu l'utilises. Un peu comme ton exemple que tu donnais de crucifix, de Jonquière. Moi, je suis montréalaise de souche et j'ai jamais entendu ça, mais...
Donc, je me disais qu'il était très exotique.
C'est extraordinaire. Pourtant, en tout cas... Évidemment aussi, le sac, c'est un élément important de notre culture, vu que les mots sont reliés à l'Église, à la présence, l'omniprésence de l'Église catholique au Québec. Une autre Marocaine arrivée ici 10 ans auparavant m'expliquait que c'est en lisant du Michel Tremblay qu'elle s'est rendue compte de l'aspect religieux derrière les sacres et du poids que l'Église catholique avait et qu'elle a compris. Ah, c'est pour ça que les gens ils disent tabarnak. Donc, voilà. Pour la troisième question qui était, est-ce que la compréhension du français québécois passe obligatoirement par les sacres? Parce qu'évidemment, il est caractéristique de notre français, puis ça serait facile de ne le réduire qu'à ça. Or, selon Anne-Marie Beaudoin-Bégin, la chargée de cours à l'Université Laval et l'auteur du livre « La langue rapaillée », sa spécialité est aussi en sociolinguistique du français québécois, ça serait une erreur de le faire que ça. Parce que oui, c'est un élément essentiel de la langue française québécoise, bien sûr, comme les expressions idiomatiques, comme s'habiller comme la chaîne à Jacques, mais ça ne se restreint pas uniquement, la langue ne se restreint pas uniquement qu'à ces expressions idiomatiques puis à ces sacres-là. Mm-hmm. Elle me donnait l'exemple de l'utilisation très rapide du tutoiement ici, que plusieurs pourraient trouver impoli. Alors qu'ici, il est inscrit dans la norme. On tutoie ses profs ici, à titre d'exemple, même les profs d'université. Puis ce processus, cet exemple-là, puis de comprendre ce processus, c'est tout aussi important, sinon plus, que de maîtriser les sacres à la perfection pour parler le français québécois, selon elle. De plus, comme elle le soulignait, tout le monde ne sacre pas.
Non, je veux dire,
on ne sacre pas tous. et on ne sacre pas tous. Tout le temps.
Non.
N'est-ce pas? Comme ici, c'est la preuve, nous avons lancé quelques sacs, mais on...
Moi, dès qu'on me met un micro dans la bouche, je me garde une petite
gêne. Et voilà!
Même quand j'ai la permission, je suis habitué à être radio-canadien, oui, c'est ça.
Tout est enregistré. Voilà. Ben, les archives, les annales, ça peut ressortir.
Mais ça serait tellement facile aussi de faire un concours de jurons que, tu sais... Quand même.
On pourrait.
C'est techniquement possible, c'est juste que. On va avoir un autre propos ce soir.
On se retient. nous analysons les sacs, nous les disons pas.
Mais surtout, c'est drôle parce que l'émission, c'est l'émission de retour du temps des fêtes parce que, et probablement parce qu'on a été exposé à une pluralité de sacres dans les derniers mois de vacances.
Oui.
Je pense que c'était ça l'idée que tu disais au début, c'était comme la première émission quand on revient. On vient d'écouter la soirée canadienne en rafale. On a des exemples. Moi, j'en ai appris une gang en écoutant la soirée canadienne, les vieux épisodes de 68. Il y a trois ou quatre affaires que j'ai ramassées.
Ah okay. Non, mais c'est fascinant. Ma mère est vraiment... Ma mère, tu sais, le gros de la soirée canadienne, et ça a été diffusé avant qu'elle arrive ici. Oui. Elle est arrivée en 177, puis c'est le côté... C'est ça, c'est... Pour elle, c'est vraiment un univers. C'est comme un autre monde.
Mais c'est exotique pour elle.
C'est totalement exotique. Elle est fascinée. Puis le dernier épisode, c'était sur Sainte-Hélène de Bagotte, à Capote. C'était très drôle. Puis elle était là, puis elle écoutait les trucs, puis elle disait « Ah ouais, ils disent ça », puis ça lançait des sacs. « Bon, mais moi, là, je trouve que, calice, les récoltes ne sont pas bonnes. » Elle trouvait ça vraiment hilarant. Ben voilà. Donc, oui. Alors, je disais que tout le monde ne sacrait pas après tout.
Et donc, ce n'est pas essentiel et nécessaire de maîtriser ou de connaître les sacs.
Non, mais ça reste... Tout à fait. Mais ça reste important de comprendre comment l'employer correctement dans un contexte approprié. Sinon, c'est ce qui devient un irritant. C'est... Ouais. Voilà, un peu comme l'exemple que tu donnais.
Ce qui n'est pas donné, on parlait d'immigrants de première, deuxième génération. Dans le cas des Français, c'est très drôle, parce que je n'ai jamais connu un Français immigrant de première génération qui était capable de maîtriser les A dans tabarnak. Tu sais, qui allait toujours finir par dire tabarnak, puis t'as beau. J'avais un prof au cégep, on lui disait, on lui écrivait sur un papier, il n'y en a pas de E, là, c'est tab. Là, on dirait que ça ne rentrait pas, alors que ça va souvent se faire en deuxième génération. Et c'est la même chose souvent quand on essaie de se les approprier, souvent de l'extérieur. Je pense que Maurice G. Dantec, quand il est arrivé au Québec, qui a écrit dans Babylon Babies, il se mettait, il y avait des personnages de motards qui sacraient, c'était une espèce de catastrophe, parce que on avait l'impression qu'il y avait le syndrome de la tourette, là. C'est-à-dire, t'avais un type très articulé qui parlait à un client comme, oui, nous avons volé les embryons, crise de tabernacle, là. Tu étais comme, pourquoi il parle? Dans un rendez-vous d'affaires, ça n'a aucun sens. Et Fred Vargas s'est aussi ridiculisé dans ce que romancière policière que j'aime bien par ailleurs, mais je pense c'est Sous les vents de Neptune où ça se passe à Gatineau. Ces policiers français viennent faire un stage à Gatineau et, encore une fois, quand les Québécois parlent, aïe aïe, ça fait mal un petit peu.
Oui, effectivement, le côté... le
caricatural, moi.
Caricatural, totalement, puis c'est un irritant pour plusieurs, vraiment. Et l'utilisation, en fait, pour revenir au fait que le contexte approprié, ce que tu disais, les... de diminuer le sac, de le modifier pour qu'il soit atténué. Il finit justement Artem Koulakov, notre chercheur russe, la grande créativité sur la transformation des sacres ici, non seulement en adjectif et en adverbe, un peu comme ailleurs, mais aussi en verbe. Et ça, c'est la particularité de nos sacres. La transformation en verbe comme crisser ou calisser, c'est vraiment particulier. Ainsi, comme il disait, les Québécois utilisent de nombreux mécanismes pour transformer leur sacre et ce qui les réapproprier, comme la troncation, donc couper la dernière syllabe du juron, comme tabar, mais pour dire le nac. La télescopie, donc de créer un nouveau sacre à partir de deux sacres différents, comme taboire, qui est déjà une atténuation. La permutation, comme quand les syllabes changent de place dans le mot, par exemple. Ça s'explique pour des raisons de politesse, un peu comme tu le disais. C'est une escroquerie pour tromper les exigences de la politesse. C'est sacré, mais pas vraiment. C'est le vernis, là, pareil. Alors, c'est ça. Donc, c'est important pour la familiarité, mais c'est aussi un côté unificateur, les sacres. Selon l'ami québéco-égyptien que je sais plutôt, né ici. Sacré, naturellement, c'est un signe d'intégration, mais il insistait sur le « naturellement ». Plusieurs ont souligné la manie qu'ont les touristes et les gens récemment arrivés, les Français notamment, comme tu le disais, Samuel, de vouloir sacrer aux deux mots pour montrer qu'ils ont compris la culture québécoise. Or, c'est un irritant qui a été soulevé par plusieurs. Même Cécilia, l'amie toulousaine, arrivée ici il y a 2 ans, en a entendu parler. Elle disait, il m'arrive de mettre naturellement dans une conversation quand je relate un événement passé. Et s'il y a des Québécois dans l'audience, ils sont surpris. Puis ils saluent mon plug de sac québécois. De ce que j'ai compris, beaucoup de Français ne savent pas trop utiliser les sacs et sont vraiment beaucoup niaisés à propos de ça. Alors, justement, sacrez-vous, vous autres, qui est la grande question confessionnelle. Donc, alors, sur les...
La confesse, littéralement.
Littéralement. Alors, sur les 6 interrogés, 4 m'ont dit sacré. Une m'a dit, une qui est marocaine, arrivée ici depuis 10 ans, me disait qu'elle jurait beaucoup plus en arabe qu'en français, même lorsqu'elle parle français. C'est plus naturel, qu'elle me disait. Ceux qui sont arrivés jeunes sacrent comme des truckers et le reconnaissent. Je suis pas comme une de mes amies françaises arrivée ici à l'âge de 5 ans, elle me disait, je suis pas fière, je sac comme un trucker, je suis pas fière, mais c'est la réalité, je le reconnais. Évidemment, ça dépend du contexte et des gens avec qui parle. Elle disait, toujours cette amie française arrivée très très jeune, me disait qu'elle alternait parfois les sacs avec des phoques, des dames, ou des putains, mondialisation et origine oblige dans le cas de putain. Mon ami égyptien, lui, il m'a raconté qu'il avait commencé à sacrer sur le tard à 20-21 ans lors d'un échange étudiant en France et c'était clairement pour me démarquer. Il disait, je veux me sentir différent des Français. Lui, c'est un marqueur identitaire. Et il a continué à sacrer par la suite, mais c'est resté pour lui pas naturel. Il me dit, je sacre, mais j'ai pas l'impression que ça coule de source. De source, plutôt. C'est comme si c'était un vêtement emprunté, qu'il me disait. Pour la perception, donc, est-ce que la perception du sacre a évolué depuis leur arrivée? Comment perçoivent-ils les sacres? Et ça, c'est intéressant. Cette question-là est très intéressante. Parce que moi, je m'attendais personnellement à me faire sortir beaucoup plus de « Ah oui, les gens qui sacrent, c'est mal, ça fait pas beau, ça manque de vocabulaire et tout ça. » Puis c'était beaucoup plus nuancé que ça. Beaucoup m'ont souligné l'aspect neutre du sacre à leurs yeux.
Okay, oui.
Parce que le sacre est plus autant connoté, parce que la religion est plus autant présente.
Mais quand c'est dans une langue, deuxième langue aussi, ça change beaucoup le rapport. Je sais que moi, fuck en anglais, ça veut rien dire.
Exactement. Voilà.
Même si je sais techniquement qu'est-ce que ça veut dire, le sacre, je l'utilise à tout vent parce que je m'en rends pas vraiment
compte. Moi, j'ai eu à l'inverse par rapport à ça quand j'étais plus jeune, quand j'ai eu des premiers vrais amis anglophones, j'ai eu à comprendre ça. À l'inverse, c'est-à-dire à comprendre qu'il y avait un poids à Fox, justement, parce qu'il a été élevé par Ice-T et Tarantino à parler anglais. Ben, je pensais à 14 ans qu'il n'y avait rien de plus cool que de lâcher les F-bombs à toutes les deux mots. Puis là, dans certaines circonstances, il a fallu que les gens m'appellent à un moment donné, tu sais, faudrait peut-être que t'arrêtes de faire ça parce que c'est vraiment fucking grossier.
Disons-le. Ben, c'est exactement ça. Mais, effectivement, dans le cas de la deuxième langue, mais même les Français, qui donc pourtant.
C'est la première langue, en effet.
Qui est la première langue, me disaient aussi que ça restait pas connoté parce que la religion était pas aussi présente. Donc, c'est pas grave. Donc, là, justement, la plus vieille de mes amies françaises disait, en parlant de cire noire ou de 19-2 où on sacre, parfois. Elle disait, je crois qu'on s'est décomplexifié par rapport au sacre depuis les 20 dernières années. Le fait qu'on se fout pas mal de la religion aide probablement. C'est beaucoup moins tabou. Anne-Marie Baudouin-Bégin a écrit dans un de ses textes de blog la même remarque, que l'évolution des mœurs a fait qu'elle a entendu il y a quelques années Pierre Lapointe sacré à l'émission Tout le monde en parle pas, Plume la traverse ou Pierre Falardeau, des gens qu'on associe au sacre. Mm. Vraiment, Pierre Lapointe, monsieur.
Le raffiné,
monsieur le Colombarium avec son accent.
Comme tu disais, je pense qu'il y a le côté hybridation aussi. Bien, le côté, un des personnages publics au Québec qui sacre le plus, c'est l'enfant chéri du cinéma, Xavier Dolan, qui tu lui donnes un micro et sacre, mais c'est presque du Lina Dunham en même temps. C'est-à-dire, c'est très brooklynois comme rapport au sacre, justement, avec du damn fucking au travers. Puis là, c'est ça. Donc on en fait, c'est presque peut-être avec la religion qui s'efface, le marqueur social qui s'efface, parce que là t'es dans une culture qui se donne ses propres repères. Là, ça veut pas dire que Xavier Dolan est né à Hochelaga, je pense pas qu'il soit né là d'ailleurs.
Non.
Je pense que ça vient, c'est un autre genre de repère, c'est comme boire de la Pabst.
C'est ça, et c'est aussi avec cette réflexion-là, on peut faire aussi la même réflexion qu'est-ce qui s'est passé avec le franglais des Dead O'Beans.
Oui.
Oui.
C'est cette idée-là qu'on est post-post. Puis là, c'est
exactement autre chose.
On recommence à zéro avec ces marqueurs linguistiques-là.
Absolument. C'est comme si c'était une culture. Dans le fond, à partir d'une ancienne culture, on crée une autre culture qui veut dire totalement autre chose.
C'est ça.
Totalement. Tu parlais plutôt, Samuel, du côté poétique quasiment du sacre. Justement, deux d'entre eux m'ont parlé du côté impressionnant qu'ils ressentaient devant des gens qui sacrent avec richesse ou qui l'emploient comme une litanie. Une de mes amies, née ici de parents arméniens, me disait que c'était probablement ce qui la marquait le plus dans l'usage des sacres. Elle, un peu comme moi, n'a pas ressenti le choc de la première fois où elle l'a entendu, vu qu'elle est née ici, et elle ne sacre pas vraiment elle-même. Mais ça reste impressionnant pour elle, ceux qui alignent les crises de tabarnak, de calice, de style. Elle en est émerveillée.
C'est comme au billard, un peu les combinaisons à 4, 5, 6, là, ça devient impressionnant.
Totalement.
1, 2, tout le monde est capable.
C'est ça, exactement. Puis la même chose pour mon ami métissé égypto-québécois, pour lui, c'était vu que ça sonne naturel, ceux qui alignent ça le font. Et de manière naturelle, comme ça coule de source, ça sonne comme si c'était de la poésie pour lui. Chose qui est soulignée aussi par Anne-Marie Baudouin-Bégin, qui disait dans un de ses textes, un peu comme la poésie, ça prend le relais de la langue normale lorsque celle-ci réussit pas à rendre l'émotion que le locuteur désire exprimer. Ouais. De dire « Chris », sais, tu pourrais faire une longue phrase de « je suis vraiment en colère parce que », mais on s'entend tous que si tu dis « Chris », t'es fâché.
Il n'y a pas de synonyme très exact, effectivement, au juron. Là.
C'est exactement.
Des mots qui sont irremplaçables.
Totalement. Moi aussi, j'en profite beaucoup pour sacrer actuellement, alors que je ne sacre pas et que ma mère va probablement m'écouter. J'en profite vraiment beaucoup.
Mais je bipe tout ça, hein, vous le savez.
Ça va être une émission en morse.
Exactement. Ce même égypto-québécois me disait, comme plusieurs, qu'il avait l'impression que quelqu'un qui en utilise trop manque de vocabulaire.
Ouais. Mais ça revient souvent,
souvent, mais le côté paradoxal de cette surenchère de sacre, c'est que leur unique présence dit beaucoup de choses. Artem Zakulakov parlait dans Sauce brune dans laquelle les sacres sont omniprésents, puis il disait que ce qui était fort intéressant dans Sauce brune, c'est la multiplication des jurons dans une même phrase, comme la litanie que je vais faire tout à l'heure. Quand Armande, dans la pièce, parle de l'escrise des comités de parents, elle reproduit un mécanisme très québécois. D'ailleurs, je trouve ça très drôle de dire escrise des comités de parents. En tout cas,
c'est comme A, B, A.
Exactement.
On retourne au même mot.
Elle reproduit un mécanisme très québécois. Il disait qu'en Russie, ça aurait aucun sens d'aligner ainsi des jurons complètement vidés de leur sens, qui ne servent qu'à remplir les trous entre les mots. Ça témoigne de l'incapacité qu'ont ces personnages-là de parler leur propre langue, mais ça arrive, elles arrivent à dire beaucoup de choses. Mm-hmm. En somme, la question qui m'avait amenée à cette chronique-là que je disais au début, c'était « Sacré est-il un signe d'intégration à la culture québécoise? » Puis ma réponse tournerait autour de « Oui, mais pas seulement. La connotation sociale autour du sacre et la portée du sacre et la maîtrise importante va continuer d'exister aussi. Puis, je viens de sacrer, puis je suis une fille, puis c'est pas beau. Donc, ça va faire un lien avec Hélène, qui, elle, nous parlera de sacre et de genre.
J'ai commencé immédiatement, d'ailleurs. Merci pour le lien radio.
Il n'y a pas de quoi, ça te plaisait.
Oui, donc, des femmes qui sacrent, en général, c'est considéré comme pas beau, c'est pas considéré comme féminin. En anglais, il y a un mot pour ça là, qui résume le tout. It's not ladylike. En 1523, il y a un traité qui s'appelait On the Instruction of a Christian Woman, dans lequel il est dit qu'une femme qui parle bien, c'est une femme qui ne sacre pas. Donc, déjà en 1523, déjà, il y avait des sacres en anglais, des jurons. Et déjà à l'époque, c'était vraiment très mal vu qu'une femme dise des gros mots. En fait, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle tout d'abord de. À quel point le sacre est associé à la sphère masculine. Les hommes, on leur permet de sacrer. Il y a un podcast que j'ai écouté pour me préparer pour cette chronique-là, une anecdote comme de quoi l'animatrice disait qu'elle avait entendu des mères dans un restaurant dire « Moi, mes petits garçons jouent au football et il faut qu'ils sacrent. Il faut qu'ils apprennent comment sacrer. Mais ma petite fille, je ne veux pas qu'elle fasse. Je ne veux pas qu'elle aille dans cette direction-là. » Et c'était très révélateur. J'ai même lu aujourd'hui un article écrit en août 2015, dans un journal néo-zélandais qui disait « Les femmes, sacrez moins, s'il vous plaît, pour nos petites oreilles. »
Pour de vrai?
Oui.
Mon Dieu!
J'ai lu aussi une réponse à cet article.
Chose espérée.
Non, on va plus sacrer.
Exactement!
On va plus sacrer, en fait.
T'aimes pas ça? Ben, Chris, on va faire en plus.
Il y a aussi, c'est relié un peu à des questions de classe sociale. Tu l'as dit un peu tout à l'heure, les sacres sont souvent associés à des classes sociales défavorisées ou au contraire, des classes sociales super hautes qui peuvent se permettre de dire n'importe quoi, qui ne seront jamais... sont un peu intouchables. Et donc, une femme qui sacre, une femme convenable, on parle toujours ici d'une a good woman, une femme qui est valide et tout ça, ben ça, si elle commence à sacrer comme un chartier, ça rappelle des connotations de classe sociale plus basse, c'est ça, bon, enfin, les genres de choses qu'on veut éviter. Mais surtout, je pense que qu'est-ce qui est le plus important au-delà des associations avec les classes sociales, c'est qu'une femme qui sacre, c'est une femme qui est en colère. C'est une bitch qui est un autre sac par rapport d'ailleurs, et c'est des questions d'immaturité, des questions aussi d'être un peu soupe au lait. Donc c'est vraiment c'est pas des qualités qui sont bien vues dans le monde, comment dire, pas dans le monde en général, oui, mais des qualités qu'on veut voir dans une femme. Une bonne femme.
Ouais. Il y a une question, je pense, aussi, quand on sort du Québec, justement, où on sort du sacre essentiellement religieux, donc autant dans le monde anglo-saxon que dans la francophonie, par exemple, il y a une question de politique sexuelle, parce que c'est un contrôle de l'obscénité aussi qui se dispute là.
Un des plus gros sacres en anglais, c'est Kant, qui est un vagin, en fait, en français.
Ouais. Et c'est vraiment Kant, grave.
C'est lourd.
Ouais.
Ça finit une conversation. Ça calme ça.
Donc, oui, c'est ça. Tu sais que la personne est fâchée. Donc, il y a souvent des sacs dans d'autres cultures où l'objet du sac, c'est une femme ou des parties des femmes. Putain, c'est aussi une femme. Puis ça, au Québec, on l'utilise amplement. On s'en rend pas compte que c'est un sac, mais c'en est un. Et puis, pour relier un peu ces deux sujets-là, Amy Poehler, qui est une comédienne états-unienne, il y a une anecdote que Tina Fey, sa grande amie, relate dans Bossy Pants, donc l'autobiographie de Tina Fey, et ils sont en lecture à Saturday Night Live, et Jimmy Fallon, Amy Poehler donc dit le mot fuck dans une phrase, et Jimmy Fallon dit arrête ça me plaît pas, t'es pas comme une lady en ce moment, et Amy Poehler a répliqué I don't fucking care that you don't like it. Donc elle fait comme yeah, je vais sacrer autant que je veux, je vais être aussi fâchée, aussi rebelle que je veux, si t'as rien à voir là-dedans, et c'est mon appel à tout en ce moment, donc on sacre. Mesdames, allons-y.
It's 2015. C'est vrai, c'est je suis ça. Déjà un an en retard, moi. J'ai pas changé mes pendules. En fait. It's 2016, Carlis. Ça va être le mot du jour. Donc oui, ben moi, juste pour rebondir, ben je voulais réfléchir sur la question de la traduction et dans ma pratique personnelle, si on veut, et dans ce qu'elle disait du statut du sac, littéralement, qu'on aborde depuis tout à l'heure. Je pense que, d'une certaine façon, il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de singularité plus québécoise que le sacre. Donc, la québécitude n'est pas réductible au sacre. En même temps, le sacre est quelque chose de profondément québécois. Peut-être plus que la poutine qui est en train de se canadianiser vitesse grand V. Moi, j'ai mangé dans une tournée canadienne, pan-canadienne, j'ai mangé de la poutine de Vancouver à Halifax.
Oui, on peut en manger même à Hong Kong.
Oui, donc la poutine...
Et à Bangkok. Grâce à Bruno.
Grâce à Bruno, évidemment. Donc, hein, on a toute cette espèce de système-là qui est là, dont on hérite, et qui est effectivement, comme on le disait, très, très difficilement traduisible, ne serait-ce qu'à cause de ces particularités-là. Mm. C'est-à-dire, il ne fonctionne pas, le sac, de la même façon. Il y a une diversité de fonctions qui est très, très difficile à rendre. C'est-à-dire, comment on le transforme et en verbe, et en adverbe, et en nom, et en adjectif. Oui, parce qu'en fait, on peut dire de quelqu'un qui est, bon, dans le dernier, sur le dernier disque de Bernard Adamus, qui a un très beau titre, Sorel, Soviet, so what? Ça s'invente pas. Ben, dans la première chanson, le blues à Gégé, hein, il dit ça, on va entendre ça. Watch 12, c'est un Chris, c'est un tabarnak. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux dire de quelque chose, tu peux dire d'une situation que, à Jonquière en tout cas, c'est Chris en calice. Mais qu'est-ce que ça veut dire? T'es malheureux, il t'est arrivé quelque chose de. T'es en train de pelleter ton entrée, puis t'as pété ta pelle, c'est Chris.
Ok, on le dit, c'est maudit.
Moses. Ouais, c'est Moses. Nous autres, on va le dire en sacrant. Okay. C'est Chris. Donc, il y a tous ces usages-là qui sont très, très difficiles à rendre et qui fonctionnent selon un régime qui est très, très particulier ici même au Québec. C'est-à-dire qu'on a perdu la trace de ce que ces mots-là voulaient dire. Donc, on se retrouve avec une pure prosodie, avec un système qui est essentiellement. Sonore, on ne sait pas c'est quoi un tabarnak, mais ça fait du bien de le dire. Et donc, c'est toute une espèce d'origine, oui, c'est toute une espèce d'origine perdue. Et oui, je pense qu'en termes d'intégration, on en parlait tout à l'heure, mais ça, là-dessus, je pense que c'est universel. Je pense que moi, quand je me promène, j'ai été exilé souvent dans ma vie, mais autant en France que me promenant dans le monde anglophone. Je pense que le moment où on est capable de savoir quand sortir les bonnes obscénités au bon moment, c'est vraiment un signe de, on est en train de se fine-tuner sur une langue et sur une culture. On comprend. On est en train de comprendre ce qui se passe. Et moi, ça a été mon grand plaisir, tu vois, cet automne, quand j'étais en tournée canadienne, de ressortir mes phoques. Quand je m'étais domestiqué le phoque en disant arrête de dire ça et guéris-toi de cette maladie-là, parce que là, tu peux pas être en lecture devant les hommes d'affaires de Toronto et te mettre à parler comme une espèce de petite brute gangster. Donc là, je resserrais le phoque, mais de retrouver les situations à quelle heure du soir et après combien de dry martini, tout d'un coup, je peux retourner. That fucking thing, man. Là, je l'ai, puis j'avais le droit, puis je suis à la coche. Donc, il y a toute cette question-là. Et bien sûr, en littérature, comprendre ce système-là, comprendre cet échange-là, c'est pas évident. Et c'est drôle parce que je l'ai fait autant des deux côtés. C'est-à-dire, mon livre est sorti en France comme il est sorti dans le monde anglophone, mais en France, on ne l'a pas traduit. Peut-être qu'on aurait dû, parce que ça, c'est une autre question. En même temps, mon livre, c'est pas non plus slapshot, là. Je veux dire, ça sert pas à toutes les deux mots. Mais il y a cette réalité vernaculaire-là, autant du joual que du langage parlé qui est là en présence, et des sacs que, tu sais, que j'essaye pas de contourner. Ils sont là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Quand on était en France, on a décidé qu'on faisait rien avec. Il y a même un moment où je voulais faire un système de notes à des moments, pas nécessairement sur le sac comme tel, mais sur les références. Puis j'ai dit à un moment, j'ai dit, bon, on oublie ça parce que ça ferait vraiment vieux roman du terroir. Alors, c'est ce qu'on faisait à l'époque, là, de faire le petit index des canadianismes à la fin. Puis c'est bon, carrément. C'est avec, on a dit, OK, on le laisse tel quel, ce qui l'a laissé quand même objet très, très d'étrangeté en France. Alors qu'au Canada anglais, ben, là, il y a toute une traduction culturel autant que sur les mots, qui fait que le livre a une autre vie là-bas, une vie plus fun que ce qui est arrivé en France, mais partant de ce travail-là. C'est-à-dire que là, dans la culture, c'est toute la question des deux solitudes. On peut se dire finalement que à partir du moment où on enlève le langage de l'équation, et en particulier ce particularisme qui est le système de sac, les deux solitudes se ressemblent pas mal. Mm-hmm. Surtout que j'écris sur qu'est-ce que c'est grandir dans une ville de 5000 habitants où il y a juste une usine puis des routes.
Oui.
C'est très canadien, comme c'est très québécois, qu'on le veuille ou non. Donc, il y a une réalité qui se croise, là. Sur les sacs, là, c'est bien ben différent. Puis j'avoue, c'est très drôle, parce qu'on me posait les questions, des fois, au Canada anglais, comment ça a été la traduction. Puis je dis, j'ai souvent exagéré les proportions, mais je dis, il y a une proportion importante de la traduction d'Arvida, du travail que j'ai fait avec Donald Winkler, le traducteur, qui était consacré à ça.
Oui.
Parce que ça venait très, très vite dans l'équation. Et moi, justement, bon, je parlais de crucifix tout à l'heure, j'aime un petit peu aussi, pas nécessairement les sacs, mais les expressions très, très localisées. C'est vrai que là, il y avait un côté, est-ce qu'on garde quelque chose qui est très, très local, où on le remplace par quelque chose qui passe mieux. Est-ce que les sacs, la question des sacs, le travail qu'on a fait sur les sacs, c'était surtout une question de gradation pour moi. Et ça revenait un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire mon premier réflexe quand j'ai commencé à travailler avec mon traducteur, qui est quand même quelqu'un, on avait un choc générationnel déjà à l'époque, c'est quelqu'un qui est dans la soixantaine avancée.
Okay.
Je suis dans ma trentaine. Okay. Avec là, il y avait le côté, hein, donc déjà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et bien sûr, les Canadiens anglais, qu'on le veuille ou non, sont des gens bien élevés et c'est des Saxons, donc polis. Donc, il y avait toujours le côté, mon premier réflexe quand je travaillais avec Don, c'était de dire « Don't tone me down ». Okay. Donc là, va pas m'enlever, va pas remplacer toutes mes crisps puis mes tabarnak par des darn puis des what the heck, parce que that's not what it is. Là,
ça enlève ouais. À la fois la couleur, puis ça enlève aussi la force que ça avait à Arvida de toute façon.
Oui, absolument. En revanche, ce que Don m'a fait comprendre à un moment qu'on travaillait, c'est de dire de l'autre côté, si on est toujours en train de monter, si on est toujours en train de craquer, c'est pas mieux. Puis il y a cette réalité-là que, OK, un gars qui dit tabarnak, qui est en train de dire qu'il est fâché, mais il n'est pas en train de dire cocksucker. Il n'est pas en train de dire fuck. Il y a tout un bagage. Et là, il faut qu'on se décide, parce qu'il y a un moment où moi-même, quand je proposais des corrections, je regardais les nouvelles, puis je dis non, là, je suis en train de faire. Si on est toujours en train de monter d'un cran, on finit par faire du mauvais Tarantino ou du mauvais Scorsese. Ce qui m'a fait réaliser quelque chose de très particulier, je pense, sur la différence entre l'usage des sacs dans la culture québécoise et dans la culture anglo-saxonne pour le moment. Laissons les Français de côté là-dessus. Mais je pense que c'est la même chose là-bas. C'est que les Français, finalement, les Anglais, sacquent pas tant que ça dans la vie et sacquent pas mal dans la fiction. Okay. C'est-à-dire que le défouloir, et tu vois, parce que moi, quand je te disais, hein, j'ai été élevé par le gangster rap puis les films de Tarantino, Scorsese, quand j'étais en situation sociale après avoir vu ces films-là, je pensais, j'ai grandi en pensant qu'on avait vraiment le droit de sacrer plus en anglais, parce que veux pas, t'entends Snoop Dogg, et ça a pas l'air d'être un problème de dire fuck. Et
là, tout à coup, quand. NWA qui dit fuck.
Oui, c'est ça, c'est tout le temps, ça fait que toi, t'arrives puis ah, fuck this and fuck that, puis là, à un moment donné, t'es dans un suspect de famille, puis ça va pas, là. Il est pas question de faire ça. Et là, tu te rends compte que le rapport est inversé, c'est-à-dire que dans la culture québécoise, au contraire, c'est-à-dire on sacque beaucoup, ben, c'est-à-dire il y a un usage du sac, il y a une réalité du sac qui a longtemps été pas tellement inscrite dans la fiction, dans nos représentations, c'est-à-dire ben, juste toute la grande époque radio-canadienne, oui, que ce soit en dramatique télévisuelle comme en littérature, jusque dans les années 60, il n'y a pas de sac de noter nulle part dans la littérature au Québec, sinon... à valeur ethnologique, tu sais, pour dire, les bûcherons disent ça dans un traité d'ethnologie. Le premier sac au Québec, je l'avais, et dans un vieux roman d'Adolphe Nantel, À la hache, publié en 1932, À la hache, qui est une espèce de roman du terroir, mais qui se passe dans le bois, un roman du terroir sylvicole, donc la belle vie des bûcherons. Et au moment donné, on note, comme ça, il y a un bûcheron qui tombe dans l'eau, puis qui lâche un tabarnak, mais là, on est vraiment dans du entre guillemets, là, dans c'est quelqu'un qui a dit ça, c'est les mœurs des bûcherons. Et on sent que l'auteur en arrière s'amuse un peu, mais on n'en drop pas 40 dans le livre, puis on est vraiment justement dans quelque chose de entre guillemets, voici des mœurs rapportées, anthropologiques, justement. Et ça reste comme ça très, très longtemps. Et même quand le joual s'inscrit dans les années 60, il n'y a pas de sac, à peu près, il y a du sac dans le cassé de Jacques Renaud, mais qui est publié chez Participer, mais qui est une espèce d'affaire Uber underground, tu sais, ces années-là.
C'est dans du Tremblay, entre autres, tu sais, on sac pas tant que ça.
Ben, Tremblay, il sac dans les années 70, les textes très, tu sais, Hosanna, À toi pour toujours, ta Marie-Lou, là où on embarque là-dedans. Mais dans Les Belles Sœurs, il y a pas de sac.
Exactement, je pense aux Belles Sœurs en disant ça, là, dans Les Belles Sœurs, il y en a pas de sac, tu sais. Puis, tu sais, tu parlais du fait que justement que ça se glissait beaucoup plus naturellement dans le langage au Québec. C'est une des affaires qui avait été soulignée par Artem Koulakov, le russe, que, en termes de particularité. C'est le fait que ici, ça coule beaucoup plus facilement que dans d'autres endroits. Il parlait de la Russie, mais aussi en anglais, dans les pays anglo-saxons, que ici, peu importe les classes sociales, on va utiliser le sacre. Et il va venir comme si c'était de source, même si c'est exceptionnel, même si c'est pour marquer quelque chose, mais c'est comme s'il venait de soi, comme si c'était naturellement intégré dans le truc.
Je ne connais pas ce chercheur et je m'inscris comme un peu en faux, mais moi, dans mon enfance à Boucherville, donc vraiment classe moyenne, propre et tout, j'ai jamais entendu un parent sacré, là. Parents de mes amis.
Ça tenait encore pas mal, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de presque initiatique autour du sac, c'est-à-dire que tu ne sacrais pas devant les enfants. Tu sais, les premières barrières, moi je parlais de mes grands-parents, ça ne sacrait pas. Ça sacrait peut-être trois gars dans une chaloupe dans le bois. Là, ça devenait. Il y avait ce côté-là, mais devant les enfants, mon grand-père, je pense qu'on l'entendait sacrer dans le garage, c'est les portes fermées. Tu entendais des outils. Là, peut-être que le tableau noir devenait un tabarnak, mais c'était exceptionnellissime comme occurrence. Puis moi, je suis assez bon d'accord avec toi là-dessus. C'est-à-dire, dans les années 80, quand je grandissais, il y avait encore des gros scrupules.
Oui, qu'à la télé, on sacrait pas.
Dans la télé, on sacrait pas. Je pense que ça a peut-être changé dans les 20 dernières années.
Moi, j'ai remarqué les premières fois que j'ai beaucoup... J'étais comme, voyons, c'était dans Un gars, une fille. C'était le personnage de Guy, joué par Guy Lepage. Ça sacrait beaucoup. J'étais donc adolescente, puis... Moi, c'est là que j'ai remarqué qu'il y a un changement.
C'est presque deuxième génération baby boom, d'une certaine façon. Oui. C'est-à-dire, c'est vraiment les enfants génération X, donc qui n'ont pas grandi là-dedans, c'est-à-dire que le scrupule appartenait à leurs parents, moins qu'à eux, parce que moi, je pense que tu dis les 20 dernières années, mais je pense que c'est plus les 10 en vitesse accélérée, c'est-à-dire que tout à coup, à la radio, ou tu sais, de vraiment, dans les séries télé, comme que ça sac beaucoup, ça arrive assez récemment. Et je pense que, bon, pour en revenir au travail que je faisais, il y avait ce côté-là de dire, bon, moi, je veux que ça sac, je veux pas que ça sac non plus contre-culturel, j'essaye pas, on n'est plus dans les années 70, j'ai pas un point à faire avec ça, mais je suis en train de m'amuser avec une réalité sociolinguistique, puis en même temps, de faire mes dialogues avec ça, de l'utiliser comme matière. C'est ça le fun. Donc vraiment, le travail que j'ai fait avec Donald, c'était vraiment de les prendre un par un, puis dire quand est-ce qu'on crinque un peu, quand est-ce qu'on descend un peu, parce que je pense que l'équivalence, puis c'est le principe sur lequel on s'est entendu très vite, l'équivalence, elle n'existe pas.
Ouais, ouais.
Elle n'existe pas, mais ça m'insulte de plus qu'un sac, que les L sortis de nulle part. Mm-hmm. Donc, l'équivalence, elle n'existe pas, parce que c'est juste pas le même système, finalement. Ça fait qu'il faut que tu trouves vraiment une façon de grader. Je me rappelle qu'à des moments, c'est-à-dire, on allait chercher aussi ce qui existe en anglais, donc les Christ, Jesus Christ, tu sais, damn, où là tu gardes une connotation
religieuse
qui va faire ton affaire pour plus tard aller vraiment chercher une obscénité là où tu veux aller vraiment.
Ben,
par exemple, je lisais dans une nouvelle, il y a une nouvelle qui s'appelle Au milieu des araignées, où c'est vraiment un gars, un employé cadre supérieur qui est en train de clairer tout le monde qui travaille dans l'usine dans la compagnie pour laquelle il travaille, puis donc il rencontre quelqu'un à l'aéroport à qui il va dire qu'il va perdre sa job. Et ce bonhomme-là, on est en se fâchant contre sa boss, leur boss mutuelle, qui est une femme qui est au-dessus de lui. En français, la traite de... Puis il n'y a comme pas de ponctuation, là, ça devient la traite de maudite, maudite, maudite vache. Tu sais, là, t'es comme... Et donc, là, en anglais, tu vois, maudite, c'est pas un sac très, très grave. Et dans ce cas-là, c'est un moment où on a augmenté parce qu'on s'est dit, là, ce qu'on veut, c'est l'obscénité. On veut la misogynie aussi parce que c'est ça qui a à sentir
la personne. C'est la circonstance.
Oui.
Doublé au.
Oui, ben donc là,
à la nature du sac un peu. Là.
Ben carrément, tu sais, c'est-à-dire là, c'est un moment où on a pris fucking pour dire maudite, alors que là, t'es vraiment dans l'augmentation parce qu'on a fait fucking cow, tu sais. Okay. Et là, parce que tu veux que ça sonne, c'est méchant, t'es pas dans quelque chose, c'est pas de l'humour, c'est pas. Tu veux sentir, tu sais, tout un ressentiment, une misogynie, etc. Donc là, on est allé plus fort. Il y a d'autres moments comme ça où. Les petits sacs, j'ai accepté que des tabarnaks, même si pour moi je charriais beaucoup de colère, deviennent des damn ou à la limite des oh my god, parce que je me disais, parce que c'est ça, il est pas en train de dire, tu sais, c'est un bonhomme qui s'est cogné le pied, il est pas obligé de lâcher un fuck comme
no. Hein,
parce que sinon, à un moment donné, il va y en avoir trop, puis ça va devenir, tu sais, obscène un peu gratuitement, puis c'est quand même, un livre qui parle de gens, tu sais, qui parle de quelque chose, de beaucoup d'histoires qui se passent pas nécessairement dans les années contemporaine, tu sais, des trucs des années 60, les années 70, tout ça, ça fait qu'on veut pas être un peu révisionniste là-dessus, puis se mettre à faire sacrer des gens de cette époque-là, comme on pourrait les faire sacrer aujourd'hui, par exemple.
Tu ne veux pas faire Deadwood, là.
Non, c'est ça. C'est drôle en même temps de le faire, cette idée-là d'Edward. Et il y a tout ce jeu-là, je pense, dans les séries, cette réflexion-là depuis quelques années. D'Edward, c'est très, très drôle parce qu'il y avait des commentaires méta à un moment donné. Là. Il y a un moment donné, il y a un personnage qui dit « Guess that you're shit out of luck ». Puis il cite Shakespeare. Puis le gars, est-ce qu'il parlait comme ça du temps de Shakespeare? Et là, ils sont déjà en train de dire, ils réfléchissent à leur propre mise en scène fictionnelle. Et The Wire aussi, j'avais montré ça dans un cours, c'est très, très drôle, de The Wire, qui est une super scène en même temps, c'est-à-dire à l'époque où on était aux États-Unis dans la grosse controverse autour de Sacastro dans les Sopranos, Sacastro dans les séries en général, surtout les séries d'HBO. Mais dans The Wire, t'avais une scène où Bunk et McNulty refaisaient une scène de crime, hein, donc revenaient sur les lieux d'un crime et là refaisaient leur enquête devant le concierge qui leur avait ouvert la porte uniquement en disant des fuck et c'est des
fuck, 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 fuck.
C'est drôle parce que ça devient une image parfaite. C'est un commentaire métatextuel. En même temps, c'est une image parfaite du rapport souvent des travailleurs manuels au sac, justement. C'est-à-dire, moi, tu vois, ben, mon père et moi, je suis pas très travailleur manuel, mais des gars sur un chantier, le côté calice. Tabarnak. Hein? Tu sais, tu montes ça, puis tout se passe dans le bassin, puis eux autres, c'était la même affaire. C'est-à-dire, les gars regardaient la trajectoire de la balle, tout ça, mais tout en fuck. motherfucker, fuck, fuck me. Tu sais, c'était juste ça. Pendant deux minutes, tu sais, d'obscénité pure, mais ils refaisaient tout leur job en sacrant comme ça. Je pense qu'il y a tout ce réflexe-là dans la culture, surtout américaine aujourd'hui. Mais tu l'as vu, il y a ça en Angleterre aussi avec les pièces Ivan Welsh, c'était la même affaire. C'était à un moment donné d'avoir une espèce d'explosion de sac. Et Lena Dunham dans Girls aussi, c'est ça qu'on disait. On dit là, tu représentes, tu sais, des filles de bonne famille, tout ça, mais c'est parce que les filles de bonne famille font ça aujourd'hui pour que tu leur crisses la paix avec le fait qu'ils sont de bonne famille, justement. Donc là, c'est là, on vient exactement à la fin de ta chronique, je pense.
Oui. C'est quelque chose qu'on a quand même, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les générations plus jeunes, on remarque qu'il y a vraiment une détabouisation vraiment
Totalement, là, chez les dans la cour d'école. Je me promène dans les cours d'école, puis dans les corridors. Tu sais, je veux dire, c'est autre chose. Puis je suis comme, mais vous dites ça à 8, 9, 10 ans. Moi, je disais pas des affaires de même. Puis j'ai l'impression de m'écouter, puis d'être de m'écouter en ce moment, puis d'être totalement ma tante. Mais.
Non, mais. Je suis avec son savon.
J'ai l'impression d'être totalement ma tante, mais en même temps, t'as tout à fait raison. Le
mais des sites web.
T'es tabou.
Des sites web comme Jezebel, Hairpin, Gloss, donc des sites web plus féministes, dans leur titre. Vont pas hésiter
à mettre des fuckings,
à sacrer puis à blasphémer. Puis pour plusieurs, là, c'est un peu, c'est ça, c'est un peu un trop, là. C'est comme, est-ce que
ce qui va nous arriver, c'est plus une question, c'est une perte d'énergie symbolique, si on veut. C'est-à-dire que il y a une belle scène dans Hope and Glory de John Berman, un film qu'on regarde plus tellement aujourd'hui, mais qui est très beau. C'est sur un garçon qui vit son enfance en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont comme un code, les enfants, quand ils voient quelque chose, quand leur cri de ralliement, faut qu'ils disent quelque chose, un sac, qu'ils disent une obscénité. Tu sais, puis quand le petit gars s'intègre à la nouvelle gang, il dit, faut que tu nous dises les jurons que tu connais, tu sais, puis j'en dis juste un. Puis là, OK, tu sais, lequel? Puis il dit, fuck, là, tu sais, puis là, les petits garçons, ils reculent, ils sont comme, ça, faut que tu le gardes pour quelque chose de vraiment important, parce que c'est grave. Et là, tu sens comme l'espèce de pouvoir du mot, puis c'est ça qui finit par arriver, je pense. On va savoir ce qu'on va faire avec ça, mais à un moment donné, c'est qu'il devient très, très casual, dirait-on en anglais.
Peut-être que ça va arriver comme dans South Park, il y a un épisode sur les jurons, et ça sac dans une émission de télé, puis shit, en fait, et là, tout le monde se à dire shit, puis là, il y a comme les gardiens de l'apocalypse là, qui viennent et qui nous. Parce que c'est en anglais, c'est swear, c'est comme si à chaque fois on faisait une action, on promettait quelque chose. Absolument, merci. Donc, il y a une signification symbolique très importante, il y a une performativité à ce moment-là, quand on pense à l'origine. Et puis, si on le fait trop souvent, on se désensibilise complètement.
Oui, c'est ça qu'il y a peut-être. Et qui devient des fois, peut-être, c'est ça, un peu gossante dans la pure esbrouffe, là, mais c'est ça. On verra bien qu'est-ce qui arrive avec ça.
Merci beaucoup à Samuel et à Rachel.
Merci à toi,
Hélène. Merci, Hélène.
Ça fait plaisir. Demain soir, jeudi, à la station Host, il y a quelque chose de super qui arrive. C'est le premier épisode de Pop en Stock live. Et on va parler de Star Wars, l'autre événement du temps des fêtes.
Attention, il va y avoir des spoilers, puis il va falloir décider avant si on a le droit de sacrer.
Donc, ça se passe à quelle heure, Jim?
À 8h.
Ça se passe à 8h à la station Host. On se retrouve là.
Pas de grimace, ça porte malheur. Coule ta carcasse, c'est pas ta sœur.
Si je t'embrasse, toi tu m'écœures. Tu me fracasses, mon doux seigneur.
T'es une lavasse, un amateur. Je te terrasse, maudit faiseur.
T'as les oreilles comme un chou-fleur. Prends ta bouteille, vieil enfant de cœur.
Mon dossier tabarnak, tu vas manger ma belle en face. M'a t'enfourri une dame, pas de conseil, les deux échasses. Mon corps les aveugles, y'a plus personne pour m'entraîner. M'a t'moucher, mon morve, tu vas payer mes démartyrs. Hostie,
si point.
Lève-moi les couilles, lève ton nombril.
Hostie, citrouille, prise de fifi.
T'as pas connu, Yvon Robert.
Là, t'aurais eu un adversaire.
Il a gauche de George.
Il est un cochon.
Ça dégorge un cornichon.
L'arrêt moquin, il lâchait pas.
L'huile de ricin, mouvement.